Bon dimanche à toutes et à tous sur RTS Espace 2.
Tout de suite, Babel avec Carole Pirker.
La Vierge Marie, on croit la connaître, mais c'est oublier que la vision qu'on a d'elle a été façonnée par une tradition religieuse majoritairement masculine qui l'a souvent déformée, voire trahie. C'est à une véritable révolution du regard que nous vous invitons ce matin. Vous êtes dans Babel, bienvenue à vous. C'est vous, Mathias Wirtz, qui nous proposez de porter un nouveau regard sur cette figure centrale du christianisme. Bonjour.
Bonjour Carole. Oui, il me semblait que le temps de l'Avent était propice pour cette relecture décapante. J'ai aussi profité de la parution toute récente d'un livre intitulé « Marie telle que vous ne l'avez jamais vue ». Un livre qui entend faire la part des choses entre passion et raison, entre excès et rejet, entre discours officiel et vérité exégétique. Et j'ai donc rencontré une des autrices, Anne Soupa, l'autre étant la théologienne Sylvaine Landrivon.
Anne Soupa, la femme qui briguait le poste d'archevêque de Lyon il y a quelques années?
Absolument, c'est elle. Elle avait posé cette candidature en 2020 par provocation. Une douzaine d'années plus tôt, Anne Soupa avait participé à la création du comité de la jupe pour défendre la place des femmes dans l'institution catholique. Mais attention, elle n'est pas seulement militante ou activiste, elle est aussi bibliste, elle est aussi théologienne, autrice de plusieurs livres et elle a dirigé durant une décennie la rédaction de la revue Biblia.
Et c'est donc avec cette casquette-là qu'elle revisite la figure de Marie.
Oui, en allant jusqu'à montrer que Marie, en réalité, est une féministe avant l'heure de MeToo. Mais pour commencer, j'ai voulu faire réagir Anne Soupa à quelques musiques inspirées par la figure de Marie. Et tout d'abord, ce chant populaire catholique.
Une porte ouverte sur le ciel. Un bouquet de fleurs. Une rose blanche qui sourit tout en pleurant. Oh, merci Jésus de nous donner ta mère pour maman.
Mon Dieu, ce n'est pas la Marie des évangiles. C'est ça que je veux dire. Je ne vois pas Marie pleurer dans les évangiles. Je devine qu'elle a souri devant son enfant, comme toutes les mères. Alors, est-ce que c'est notre maman? Là aussi, je suis un peu en question, parce que Marie n'est pas une figure de la femme, ni des femmes. Marie est une figure du croyant. Et si on travaille les textes évangéliques, on se rend compte que Marie, chez Luc, est la figure de tout Israël, d'un Israël croyant. Donc, je ne voudrais pas qu'on la réduise à ces trois images de la béatitude, des pleurs et de la maternité.
Et puis, cet autre son.
Mère de miséricorde. La miséricorde, c'est une qualité de Dieu d'abord. J'imagine que comme mère d'un enfant, elle a été miséricordieuse, parce que je pense que les mères le sont dans leur exercice éducatif. Mais Marie est d'abord la figure du disciple, de celle qui sait suivre Jésus. Et les rapports familiaux se sont estompés au cours de l'avancée du ministère de Jésus. On voit dans les Actes des apôtres Marie devenir une disciple anonyme dont on ne cite même plus le nom, mais qui sait que son rôle de mère est derrière elle et qui accepte d'avoir un nouveau rôle, celui de disciple, qui est le seul qui va lui apporter de la nouveauté, de l'inconnu, de la vie, alors que son rôle de mère est passé devant un fils adulte. Il a vécu sa vie, elle n'a plus grand-chose à lui offrir en tant que mère. Par contre, en tant que disciple, oui.
Et puis après, le Salve Regina, peut-être aussi quelques notes de musique classique à vous faire entendre.
encore Anne-Sou, pas comment est-ce que vous réagissez en entendant ces notes liées à la figure de Marie ?
D'abord, je suis émue par la beauté de ce Stabat Mater. Je ne vais pas nier que ça me bouleverse de sensibilité, de qualité pour rendre une émotion si bien. Bon. Mais je ne voudrais pas qu'on enferme Marie dans la douleur. On ne la voit jamais pleurer dans les évangiles. Oui, effectivement, on en a trop fait dans le modèle doloriste. La douleur de Marie est discrète et à trop en faire dans la douleur, on oublie le reste. C'est ça le problème que je verrais, mais j'aime le Stabat Mater, je ne peux pas vous dire le contraire.
Après cette introduction en musique, Anne Soupa, peut-être une première question à vous. Qui est Marie ? Qui est cette femme pour vous personnellement ?
Marie est une figure du courage, mais pas du courage devant la douleur de la mort du Fils, du courage parce qu'elle a su transgresser un ordre patriarcal qui voulait qu'elle arrive vierge à son mariage. Or, en acceptant cette fécondation, il faut bien dire le mot tel qu'il est, en acceptant cette fécondation par l'Esprit Saint, Marie a accepté que, aux yeux de l'opinion, sa virginité soit salie. C'est donc une figure de révolte devant l'ordre patriarcal qui imposait la virginité en méconnaissance de la place de l'Esprit-Saint, finalement. Donc c'est d'abord ce courage que j'admire chez elle, cette capacité à transgresser, et finalement cette solidité intérieure que j'admire énormément et qui va se vérifier tout au long de sa vie, par sa présence à Cana en particulier, où elle réussit à pousser son fils à sa vie publique, malgré ses réticences. Donc c'est une figure très courageuse et qui ose mettre au cœur de sa vie la foi. Voilà, c'est le courage d'affirmer sa foi envers et contre tout. Et ça, je trouve ça admirable.
Le rapport à Marie qu'on a en tant que chrétien en général, en particulier catholique, est donc, selon vous, marqué trop par une dimension d'affectivité peut-être un peu suave.
Je n'ai rien contre l'affectivité. On a besoin de figures auxquelles s'adresser dans la douleur, dans l'épreuve, parce que dans l'épreuve, il y a une solitude considérable. Tout d'un coup, on est seul face à quelque chose d'insurmontable qui vous broie. Bon, donc là, il faut être aidé. Je comprends très bien que l'on se tourne vers la figure de Marie qui vous aide dans le malheur. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Il faut se dire que Marie a traversé cela, qu'elle a accédé à autre chose et que moi qui suis affectée dans ma chair par un décès, par une séparation insurmontable, j'y arriverai aussi. Il y a un au-delà à la douleur.
Marie est souvent aussi décrite, ou en tout cas adorée, comme une figure un peu évanescente comme ça dans la dévotion. Ou alors au contraire, on la décrit comme la reine du ciel, comme la mère de Dieu. Est-ce que vous diriez qu'il faut dédiviniser Marie ?
Alors il y a deux aspects à cette question. Il y a effectivement le tropisme populaire à faire de Marie la quatrième personne de la Trinité. Et ça, ça a touché tous les courants catholiques. Donc vous voyez, ça c'est une tendance qui existe très profondément de mettre Marie hors de la condition humaine, c'est-à-dire une fuite. Si on divinise Marie, c'est parce qu'il y a quelque chose de la condition humaine qu'on veut fuir, qui nous est insupportable. Ce qui nous est insupportable, c'est notre ambivalence, c'est notre contribution au mal, c'est que nous ne soyons pas parfaits. C'est tout ça qui nous donne envie de fuir notre condition. Et ça, ça s'applique en général sur Marie. C'est sur la figure de Marie que nous faisons porter notre mal-être devant notre condition humaine. Donc on la divinise. Et il y a une autre tendance, beaucoup plus masculine, qui est celle que les clercs ont imposée à Marie, qui est de la décorporer. Et ça, c'est le dogme de la virginité perpétuelle de Marie qui a été adopté au 7e siècle, qui nous fait entrer dans cette espèce de fantasme d'homme, d'une Marie qui n'aurait jamais eu de rapport sexuel. Mais si vous enlevez à quelqu'un sa sexualité, vous le décorporez. Les psychologues nous ont appris que la sexualité marque notre corps de manière très fine, mais dans tous les domaines. Si nous enlevons à quelqu'un sa sexualité, effectivement, comme vous le dites, il va planer, il va monter dans les nuages et on retrouve notre mari qui est sur un nuage à côté de son fils pour l'éternité. Mais ce n'est pas cette figure que les évangiles nous donnent.
Anne Soupa, vous parlez de fantasmes, vous parlez de psychologie, mais est-ce que selon vous, le rôle de mère que joue Marie, non seulement pour Jésus, mais aussi pour toutes les personnes croyantes qui se fient à elle, a aussi d'une certaine manière favorisé l'attachement psychologique à cette figure?
Oui, mais c'est à la racine que je voudrais m'attaquer. Nous n'avons pas à faire de Marie notre mère. Marie est notre sœur. Et c'est une religieuse de Beauzée qui me l'a appris en me rappelant que c'était la première désignation des pères de l'Église sur Marie. Marie, notre sœur. Et j'espère que nous reviendrons à cette sororité envers Marie parce que je crois que c'est de là que nous avons le plus de richesses à attendre.
Passer de l'image de Marie comme mère à Marie comme sœur, c'est une relecture finalement de cette figure biblique que vous proposez aussi dans votre livre que vous co-signez avec Sylvaine Landrivon. Un projet de relecture qui est né, dites-vous, du confinement au printemps 2020. Mais est-ce que je devine bien en disant que c'est aussi un projet qui est né de vos propres engagements pour les femmes à l'intérieur de l'Église catholique ?
Bien sûr, le confinement a favorisé la maturation de ce projet, mais si nous voulons, Sylvaine et moi, si nous avons voulu aller au bout de notre travail sur le féminisme, c'est en interrogeant la manière dont les clercs ont modelé une autre Marie qu'il fallait aller. Donc, il était très important pour nous de nous rendre compte du poids de la domination masculine à travers la figure de Marie. Et quand on voit que l'institution a réussi à la fois à développer le thème d'une figure vierge et mère en même temps, et la seconde affirmation que Marie est un modèle pour les femmes, on arrive à dire que les femmes doivent être vierges et mères en même temps. C'est de la folie pure. C'est véritablement un non-sens. Et ça, il faut que nous le bousculions très fort. Donc, notre fibre féministe s'est effectivement appliquée là. Et je dois dire que Marie, transgressant l'ordre patriarcal, nous est apparue à l'inverse de ce que les clercs ont voulu imposer. Elle nous est apparue comme une figure d'un féminisme énorme et très moderne. Donc oui, Marie est devenue, non pas sous notre plume, mais sous notre travail de relecture à l'aide des textes évangéliques, elle est redevenue une figure féministe, même si le mot n'existait pas à l'époque, bien entendu.
Disiez, c'est une figure féministe avant l'heure. Marie répond oui à la mission que l'ange lui confie. En même temps, dire oui de cette manière-là, est-ce que ce n'est pas aussi simplement une forme d'obéissance?
Vous savez, dire oui à l'esprit, je me représente très souvent cette scène en me demandant « Mais qu'est-ce que ça veut dire de dire oui à l'esprit? Quand rencontre-t-on l'esprit ?» Et quand nous est-il arrivé de lui dire oui ou non? A posteriori, on arrive à le faire, parfois. Mais quand on est en situation, c'est exceptionnel. Donc je pense que la transgression de Marie, ça n'est absolument pas un acte de soumission. quelle était la personne physique, l'autorité morale qui l'a poussée à dire oui. C'est un ange, il n'y a rien de plus évanescent qu'un ange, de plus fluide, de plus propre à disparaître d'un instant à l'autre. Donc il a fallu une force de caractère exceptionnelle à Marie pour dire oui. Donc je pense que loin d'être une figure de soumission, c'est vraiment une figure de transgression très forte, mais dans le sens positif du mot transgression.
Là encore, la transgression, on a de la peine à se l'imaginer quand on voit Marie vierge. La Vierge Marie, dit-on, la virginité de Marie est aussi un point qui a beaucoup fait discuter et dont on a aussi eu des idées très déformées à vos yeux.
Oui, parce que ce ne sont que des hommes qui ont décidé de la virginité de Marie. Alors je ne conteste pas le verset de Matthieu « Et Joseph ne la connut point jusqu'à la naissance de l'enfant ». Je l'écoute et je le suis. Je ne mets pas en doute que ce soit une parole d'homme et que je la critiquerai. Ce serait vraiment puéril de ma part. Bon. Mais je pense que sa lecture est une lecture théologique qui met en valeur la place de Jésus lui-même. C'est pour l'enfant que Marie est vierge. C'est pour dire que Dieu peut venir par tous les chemins possibles et qu'il n'y a pas de restriction à l'œuvre de Dieu. Donc Marie peut tout à fait avoir été vierge symboliquement et mariée biologiquement à Joseph. Elle aurait pu avoir des relations sexuelles avec son mari. Cela n'aurait rien enlevé à l'accueil de Dieu dans un esprit virginal. Je crois que c'est comme ça qu'il faut comprendre la virginité de Marie, comme une disponibilité à Dieu sans faille, sans limite. C'est d'abord ça la virginité, c'est la disponibilité à Dieu. Pour le dogme de la virginité perpétuelle, aucun écrit évangélique ne cautionne une telle parole. Si quelqu'un plane, ça n'est pas Marie, c'est l'institution. Dans cette circonstance. Bon, c'est un fantasme masculin qui a été prioritaire. Pour le dogme de l'Immaculée Conception, effectivement, faire sortir Marie du péché originel, c'est la faire sortir de l'humanité courante. Et ça, je trouve que c'était inutile, alors que tous nos efforts doivent tendre, au contraire, à la réhumaniser, à lui rendre son corps, à lui rendre sa chair, y compris tous les attributs de la féminité que la masculinité a de la peine à voir, comme le sang des règles, par exemple. Tout cela appartient à Marie en tant que femme, mais pas seulement, en tant qu'être humain qui a droit à tout son capital biologique de vie.
Et donc cette survalorisation de la virginité a aussi produit une image de la pureté qui est devenue un modèle moral qu'on a imposé aux femmes catholiques pendant de nombreux siècles.
Alors il est évident que nous avons tous dans nos fantasmes un besoin de pureté. Comme nous avons un besoin de consolation, nous avons un besoin de pureté. Mais alors que la consolation viendra, elle vient de nos frères et de nos sœurs, la pureté est un fantasme inaccessible et inassouvissable parce qu'il est à l'opposé de notre condition humaine qui, effectivement, est ambivalente. Moi, j'ai beaucoup été marquée par le livre de Sartre, « Les mains sales », parce que nous ne vivons pas dans la pureté et il est vain de chercher à l'atteindre. Acceptons l'impureté native, fondamentale, parce que c'est un facteur de cohésion entre nous. Je suis très sensible à ça. À partir du moment où je me reconnais pécheur, tous les hommes et toutes les femmes sont mes frères et mes sœurs. Je ne peux plus sortir de la fraternité.
Anne Soupa, vous disiez tout à l'heure que Marie était le modèle d'une femme courageuse, d'une femme audacieuse. Est-ce que c'est un modèle pour les femmes catholiques aujourd'hui dans l'institution qui voudraient elles aussi justement marquer leur place?
Je crois que c'est un modèle de croyants et je résiste fermement à cette tendance d'en faire un modèle pour les femmes. C'est une figure biblique féminine qui est à la disposition de tous. cette catégorisation trop genrée, elle est, je pense, malvenue pour Marie, parce que tous peuvent se retrouver dans Marie, les hommes aussi, bien entendu. Les grands spirituels du Moyen-Âge, comme saint Bernard, parlaient d'enfanter le Christ à l'image de Marie. Bon, donc je crois que oui, cet enfantement du Christ par le croyant, c'est-à-dire par la bienveillance dans la vie quotidienne, la charité, la foi, l'espérance, toutes ces qualités que nous mettons en œuvre dans notre vie, eh bien cet enfantement du Christ, il est donné à tout le monde, hommes et femmes. Mais je pense que dans le panthéon des figures bibliques qui peuvent valoriser la place des femmes, Marie est en première place. Effectivement, sa figure est d'un très grand dynamisme. Dans le Magnificat, nous avons une figure d'une audace incroyable. Donc oui, Marie est un grand modèle, mais à condition d'en faire juste une figure féminine valable pour tout le monde.
Une figure féminine et féministe qui peut même inspirer les hommes, donc, à vos yeux.
Bien sûr, parce que les hommes auraient tout à gagner à ne pas faire de Marie l'instrument de leur propre parole, mais à s'effacer devant la force de la figure de Marie qui, effectivement, peut les aider à devenir eux aussi des disciples accomplis. Donc, oui, Marie peut aider l'institution à bouger, à condition qu'elle renonce à manipuler Marie comme une potiche ou comme une marionnette.
Vous citiez, Anne Soupa, vous citiez le Magnificat. C'est donc ce texte dans l'évangile de Luc où Marie proclame que Dieu renverse les puissants de leur trône, qu'il élève les humbles ou encore qu'il comble de biens les affamés en renvoyant les riches les mains vides. Marie, c'est donc une révolutionnaire.
Oui, alors l'interprétation du Magnificat est très difficile parce que c'est un chant révolutionnaire composé de citations du Premier Testament. Donc oui, il y a un grand bouleversement dans le projet du Magnificat. Je ne sais pas s'il faut l'appliquer à une révolution politique. Je crois qu'il faut d'abord l'appliquer à nous-mêmes. Et c'est à mon avis un grand travail spirituel que ça nous invite. Mais je comprends que cela inspire des mouvements révolutionnaires dans le monde qui sont légitimés à s'appuyer sur la figure de Marie dans leur combat.
Peut-être une question plus personnelle, Anne Soupa. Quel est votre passage biblique préféré touchant la figure de Marie? Ce qui vous inspire le plus en tant que, j'allais dire, femme catholique qui défend sa place dans l'Église?
En tant que féministe et en tant que croyante, c'est vraiment le texte de Luc sur l'Annonciation.
L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu à une jeune fille accordée en mariage à un homme nommé Joseph. Cette jeune fille s'appelait Marie. L'ange lui dit « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas être enceinte. Tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. » Marie dit à l'ange « Comment cela se fera-t-il puisque je n'ai pas de relation conjugale ?» L'ange lui répondit « L'Esprit Saint viendra sur toi. » Marie dit alors, « Je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi comme tu me l'as dit. » Évangile de Luc, chapitre 1.
En tant que féministe, parce que je vous ai dit combien le geste de Marie dérange le patriarcat, mais aussi en tant que croyante, je suis presque tous les jours confrontée à cette question, comment dire oui à l'Esprit, comment accepter que toute notre vie puisse être chamboulée par un oui. Voilà une tâche devant laquelle tous les croyants se retrouvent tous les jours. et que parfois nous ne savons pas remplir et que parfois nous remplissons. L'histoire sera, j'espère, tendre avec nous et indulgente envers nos manquements, mais c'est un texte d'une exigence considérable.
Selon vous, Anne Soupin, en conclusion, que doit être ou qui doit être Marie avant tout pour les personnes croyantes? Il ne devait rester qu'une seule chose d'elle.
Alors Marie est celle qui, avec le disciple bien-aimé à la croix, dans l'évangile de Jean, reçoit la mission de prolonger l'œuvre de Jésus. Le mot « église » me vient à la bouche et je pense qu'il est légitime, mais ce disciple bien-aimé qui est le lecteur de tous les temps, ce disciple bien-aimé, donc nous les croyants d'aujourd'hui, et Marie, figure d'Israël qui vient apporter son concours à la fondation de cette église nouvelle, eh bien les deux, dans l'égalité, pas dans la légalité, mais dans l'égalité, fondent l'église du Christ. Et c'est cette église du Christ que j'appelle de mes voeux et que je voudrais voir advenir dans notre institution catholique qui peine énormément à se défaire de son masculinisme.
Il y a aussi des dévotions et donc Marie comme figure très clivante quand même au sein de l'institution. Que dites-vous aux personnes qui ne peuvent pas supporter cette dévotion mariale, des fois sentimentale ou en tout cas très éthérée comme ça?
Je dis que je les comprends très bien parce que j'ai traversé ce sentiment de répulsion devant une figure mièvre alors que ça n'en est pas une. Mais il suffit de regarder les textes pour voir que, effectivement, Marie nous entraîne bien au-delà dans ce courage de l'Annonciation dont nous avons amplement parlé, ce courage du Magnificat et cet avenir qui naît au pied de la croix auquel nous pouvons tous souscrire. Voilà.
Marie, une figure courageuse et non une potiche ou une marionnette, c'était Anne Soupa à votre micro, Mathias Wirtz, et vous interrogiez la bibliste française En Marche de la publication de son livre « Marie, telle que vous ne l'avez jamais vue ».
Oui, un livre qu'Anne Soupa co-signe avec Sylvaine Landrivon. L'ouvrage est paru cet automne aux éditions Salvator.
Mathias Wirtz, merci pour cet entretien, un entretien à réécouter en tout temps sur le site rtsreligion.ch et sur l'application Play RTS à l'enseigne de Babel. Fred Facio signait la réalisation de cette édition et Daniel Zacker les lectures. Daniel Zacker qui est aussi notre fidèle attaché de production. Voilà, Babel, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Restez à l'écoute de RTS Espace 2. Vous avez rendez-vous avec Marin Piguet pour Ensemble. Quant à nous, on se retrouve dimanche prochain, même lieu, même heure.
Ensemble, Marin Piguet. Ensemble avec Gilles Ozaman en régie, c'est l'heure du brunch et sur RTS Espace 2, l'heure du rendez-vous convivial des chœurs, fanfares et autres ensembles de Suisse romande. Au menu de ce jour, nous commencerons par notre exercice d'échauffement, aujourd'hui au trombone avec Baptiste Baudiment. Puis dans notre théorie des ensembles, nous recevrons deux représentants de l'ensemble Le Chant Sacré de Genève. Et puis nous irons dire bonjour à la Landwehr de Fribourg qui est en concert de gala ce week-end. Merci d'être à l'écoute, nous sommes ensemble jusqu'à 13h. Avis à celles et ceux qui manquaient de ciel bleu ces jours. Cette pièce était pour vous puisqu'elle s'appelle Mr. Blue Sky. Elle est signée de la main de Jeff Lynne et interprétée à l'instant par Nicholas Childs à la tête d'un brass band appelé le Black Dyke Band. Il est l'heure de nous échauffer aujourd'hui à l'enseigne d'ensemble sur RTS Espace 2. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie du tromboniste Baptiste Baudiment.
Ensemble, de quelle voix on se chauffe ?
Bonjour. Alors, la technique dont je vais vous parler aujourd'hui sur mon instrument, qui est le trombone, c'est le lip bend, ou étirement en français. Donc, c'est un petit exercice qui est très très bien à la fois pour un échauffement avant de travailler, avant un concert, ou après pour s'étirer. Et cet exercice, ou cette technique, consiste à glisser d'une note à une autre inférieure en maintenant les commissures des lèvres bien serrées et en restant sur la même position. Donc, c'est-à-dire que ça va créer une fausse note, une note factice, comme vous pouvez l'entendre. Alors que si on fait une vraie note, et voilà, c'est un exercice qui permet d'étirer un peu les lèvres et de s'échauffer rapidement. Moi, je l'utilise tout le temps pour avoir une séance de travail ou avant un concert.
Ensemble pendant 300 ans.
Ensemble. Thank you.
Édouard Grieg, avec un instant ce rigaudon extrait de sa suite Au temps de Holberg, une suite originellement pour piano, mais ici transcrite pour quatuor de saxophone avec l'interprétation du Mélisma Saxophone Quartet dans l'enchaînement de cette pièce, de cette chanson de Gustave Doré, Prière du Rütli, avec Stanislava Nankova à la tête de la chorale du Brassu.
Thank you.
un orchestre d'harmonie. Il s'appelle le Philharmonic Wind Orchestra. Il est basé à Vienne. Il est dirigé par Mark Reift et on l'entendait à l'instant dans cette ouverture métropolitaine signée de la main de Hardy Schneiders. Vous êtes à l'écoute d'Ensemble sur RTS Espace 2, l'heure de notre feuilleton de musique chorale helvétique. Nous sommes dans le 20 RB de Franck Martin, un oratorio. Il est en trois parties et nous sommes en plein milieu justement de cette troisième partie. Voici quelques extraits, donc, là où on l'avait laissé la dernière fois. Daniel Reuss à la tête de l'ensemble Scharoun de Berlin, ainsi que du Rias Kammerchor.
Je ne viens pas jusqu'au bout, c'est que tu ne me verras, et c'est mon cœur.
Le Rias Kammerchor et l'ensemble Charoun, tous deux de Berlin, réunis sous la baguette de Daniel Reuss dans cet oratorio de Franck Martin, le 20 RB à l'instant des extraits de la troisième partie. Il est l'heure à l'enseigne d'ensemble sur RTS Espace 2 d'ouvrir notre grand livre encyclopédique.
La théorie des ensembles.
Et ce dimanche, nous parlons d'un chœur genevois, il s'appelle le Chant Sacré. Et j'ai autour de la table avec moi son directeur, Romain Mayer, bonjour.
Bonjour.
Ainsi que l'un de ses choristes ténors, Paul-Henri Soler, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc tous les deux venus nous présenter cet ensemble vocal ou ce chœur. Vous nous direz exactement comment est-ce qu'on doit le dénommer, le Chant Sacré de Genève. Alors première question, tout simplement, depuis quand existe cet ensemble, le Chant Sacré? Quand est-ce qu'il a été fondé?
Eh ben, on peut dire que c'est vraiment une institution assez ancienne, et c'est le moins qu'on puisse dire, puisque le Chant Sacré aurait été fondé à l'hiver 1827-28. Donc ça fait un certain nombre d'années, il faut bien
bientôt
le dire.
Bientôt bicentenaire, donc.
Bientôt bicentenaire. Alors on a relativement peu de membres fondateurs qui chantent encore avec nous, mais oui, c'est une ancienne société chorale, oui.
Mais on a encore donc les traces écrites de la fondation de ce chœur. On sait un peu dans quel contexte ça a été créé, quelles en étaient les motivations.
Alors le Chant Sacré a été vraiment très clairement fondé à l'ombre de la cathédrale Saint-Pierre. C'était une dame qui avait à cœur vraiment d'améliorer le chant des psaumes et des hymnes et des cantiques au service au culte. Et c'est vrai que du coup, le Chant Sacré a été pendant très longtemps à la fois une vénérable institution musicale de la bonne société genevoise et aussi une sorte d'annexe un peu laïque de Saint-Pierre et de l'église protestante de Genève. Situation qui a évidemment évolué en 200 ans, mais c'est un peu la situation de départ. On a peu de tracés écrits vraiment, disons, il n'y a pas de procès verbal de l'Assemblée constituante ou des choses comme ça.
D'acte fondateur. Mais,
ouais, exactement, ça on n'a pas. Ça pourrait être sinon au musée à Auschwitz, des chartes fédérales peut-être. Mais c'est vrai qu'on a par exemple même des citations de Franz Liszt qui, de passage à Genève, mentionne les gens de la société de Chant Sacré